Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Voilà l'heure où nous nous retrouvons pour 2 heures de dialogue, d'échange et de partage. 2 heures durant lesquelles nous allons chercher des mots qui vous font du bien. Dans le monde où nous vivons, circulent beaucoup de paroles qui blessent, des mots qui font mal, des phrases qui détruisent, car la violence, vous le savez, n'est pas que physique. Certains sont des spécialistes des petites phrases assassines et des remarques acides. À l'inverse, on sait à quel point une parole vraie, un mot juste, une phrase appropriée, peut permettre à celui qui le reçoit de se réconcilier avec son histoire, de comprendre son passé et surtout d'avancer avec plus de confiance vers son avenir. Il suffit d'un mot qui arrive au bon moment pour permettre à celui qui le reçoit de relier les morceaux de son puzzle et de mieux se comprendre lui-même. C'est pour ça que l'écoute est si importante, elle permet de soigner les blessures. Et même si vous n'êtes pas thérapeute, vous pouvez tous être porteurs de paroles qui soignent, réparent ou apaisent. Ne vous privez pas de ça. Car les mots qui font du bien font autant de bien à celui qui les offre qu'à celui qui les reçoit. Partageons donc ces mots-là ce soir, si vous le voulez bien. Appelez-moi au 3921. Cindy et Nicolas sont prêts à vous accueillir au standard Europe 1 pour vous guider jusqu'à moi. Et puis je vous rappelle que pour participer par SMS, vous faites le 739-21 suivi du mot nuit et de votre message. C'est Julien qui réalise notre émission ce soir et si vous êtes prêts, on y va.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et mon premier appel, c'est l'appel de Miguel. Bonsoir Miguel.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue sur cette libre antenne.
Merci, merci de me recevoir. Je vous écoutais un instant et je me disais, c'est terrible ce que vous dites, il suffit d'un mot. Et c'est vrai qu'on se dit, avec un mot, parfois on peut faire du mal.
Oui.
Et on peut réparer aussi, heureusement, mais surtout faire du mal. Et c'est vrai que ce que je traverse en ce moment, je me dis... j'espère que j'ai les bons mots, j'espère que je dis les bons mots et sûrement que je suis maladroit, et, mais voilà, ça m'a fait...
Ça a résonné en vous.
Ça a résonné, ce que vous avez dit là. Et c'est vrai, hein, c'est vrai que c'est ces mots parfois que l'on essaie de retenir et parfois on dit, bon ben, il faut les balancer parce que ça fait trop mal et en fait ça fait plus de dégâts. Enfin, bon.
Alors racontez-moi ce qui vous arrive là en ce moment.
En fait, moi je suis dans un vacarme, j'appelle le mot vacarme émotionnel assez puissant parce que mon père a eu un AVC il n'y a pas très longtemps, le 3 septembre. Et je ne m'attendais pas du tout parce que mon père a été le pilier de la famille, de notre famille. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il tombe comme ça. Et donc, ça a été un bouleversement terrible parce que, justement, je n'avais pas encore dit les mots que j'avais envie de lui dire. Et puis donc, je me suis retrouvé à l'hôpital à son chevet. Mes parents vivent en Espagne, je suis parti précipitamment en Espagne rejoindre mes parents là-bas.
Pardon Miguel, on ne vous entend pas très très bien, ne bougez pas le téléphone s'il vous plaît.
D'accord, pardon.
Merci.
Pardon.
C'est un monsieur qui a quel âge, votre papa ?
Mon papa a 81 ans.
D'accord.
81 ans, et il a toute sa tête, et voilà, il a eu un moment, son cerveau a dit stop, donc il a fait un AVC. Et c'était sa façon à lui de dire que voilà, c'était un peu trop ce qu'il portait.
Mmh.
Et donc, là, je me suis rendu compte qu'il y a des mots que j'aurais pu éviter de lui dire avant, les années qui ont précédé, les mois qui ont précédé, les semaines qui ont précédé. Et peut-être que j'aurais dû dire d'autres mots. Voilà, ça, je fais le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure.
Mais est-ce qu'il était en état de comprendre encore à l'hôpital ou c'était...
Pendant 15 jours, ça a été terrible. Pendant 15 jours, il ne me reconnaissait plus,
ah oui.
il avait des hallucinations, donc c'était très très dur au début de me dire, je l'ai perdu, il est ailleurs. Il est où d'ailleurs? Il est ailleurs. Et surtout, j'assistais à une scène qui a été terrible. Je me suis absenté juste 2 heures pour aller m'occuper de ma mère qui elle aussi est souffrante. Et donc, en revenant, mon père avait du mal à respirer. Puis j'ai insisté auprès des infirmières pour qu'elles viennent s'occuper de lui. Finalement, elles sont venues et il était en train de s'étouffer. Il était en train de mourir sous mes yeux. Et donc, branle-bas de combat à l'hôpital, donc les médecins arrivent, ça s'allume de partout, ça sonne de partout, on lui tape dessus pour lui dire « allez, revenez ». L'appareil pour retirer les mucosités qui a été incrusté dans le mur ne fonctionnait pas, donc voilà, panique à bord, sous mes yeux, là on sauve mon père. Et on me dit, suite à son AVC, il a failli mourir étouffé, donc, et suite à ça on me dit « ben voilà, de toute façon, on ne pourra pas lui mettre de respiration artificielle parce qu'il est trop âgé, parce qu'il a un AVC et je pense aussi parce que nous sommes en pleine crise sanitaire et qu'il y a des appareils respiratoires qui sont peut-être utilisés pour d'autres circonstances. Enfin bref,
les fameux choix terribles qui ont été faits.
Voilà. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé avec mon père toute une nuit pendant laquelle je savais qu'il partait. Il partait, on me disait, on l'a mis sous morphine. Et donc, je me dis, voilà, c'est un face-à-face, un tête-à-tête, où il n'était plus vraiment présent, seulement par le contact physique. Donc, je lui ai beaucoup parlé, je l'ai beaucoup massé. Je me suis trouvé des vertus d'acupuncteur ou de réflexologue, parce que j'appuyais sur des points en imaginant que ça pouvait soulager ses douleurs. Ouais. Voilà, il m'a beaucoup parlé. Je lui ai demandé pardon pour ce que j'avais peut-être, pour justement certains mots. J'ai jamais été grossier avec mon père, mais je pense que j'étais maladroit, comme beaucoup de personnes.
Oui.
Donc je lui ai demandé pardon et je lui ai chanté des chansons parce qu'on a beaucoup chanté quand il était. Mon père, j'ai toujours entendu chanter. Et il m'a transmis cette passion-là. Et donc, voilà, et puis je l'ai surtout remercié et lui ai dit à quel point j'étais fier de lui d'avoir tenu la barque. La barque, c'est notre barque, parce que nous avons traversé des épreuves très difficiles depuis la mort de mon frère, et c'est mon père qui a tenu la barque pendant très très longtemps. Et donc, j'ai voulu lui remercier, lui dire à quel point j'étais fier de lui et qu'il m'avait montré le chemin. Et que je ne voulais surtout pas qu'il parte. S'il avait décidé de partir, voilà, qu'il partirait. Mais en tous les cas, que j'avais encore besoin de lui. Voilà, je me revois en train de lui dire que j'avais besoin encore de lui.
Mmh.
Et puis à 6h du matin, contre tout espoir, il est resté. Il est resté. Et encore là. Il est en maison de rééducation maintenant. Et voilà, il a récupéré sa tête.
Il a récupéré ses esprits alors.
Ah oui, il a récupéré ses esprits. Oui.
Est-ce que vous lui avez parlé de cette conversation?
Ça commence à venir, parce qu'il a besoin de... Je crois qu'il n'a pas tout à fait compris. Maintenant, il commence à comprendre ce qui s'est passé.
D'accord.
Il me demande ce qui s'est passé. Et je lui en ai parlé, et sa pudeur a fait qu'il n'a pas relevé, parce qu'il est un homme très pudique. Ça nous a beaucoup rapprochés.
Hein, je suis persuadée que c'était un moment extrêmement important pour lui, et que peut-être c'est même ça qui l'a fait revenir.
Oui, parce qu'il m'a dit qu'il entendait tout. Et il me dit, tu sais, j'entendais quand les médecins disaient que c'était fini, parce qu'ils n'étaient pas très finaux, ils étaient à côté. Et pendant toute la scène et après cette scène-là, et quand les médecins sont venus le lendemain, en disant, de toute façon, voilà, on faisait comprendre que... Il me dit, j'entendais tout. Donc je pense qu'il a dû m'entendre quand je disais que je l'aimais, que je tenais à lui, que j'avais besoin de lui.
Ouais.
Et voilà, vers 4 heures du matin, je n'en pouvais plus, j'étais épuisée. Et je me suis dit, bon ben, advienne que pourra, maintenant, je ne tenais plus debout. Je me suis endormie à côté de lui. Et puis, à 6 heures du matin, voilà, j'ai senti sa respiration a changé. J'ai senti qu'il était resté, il avait fait le choix de rester.
Mais alors, vous avez mentionné votre maman qui, elle aussi, est souffrante.
Oui.
C'était en réaction à ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui s'est passé?
Non, ma maman est souffrante. Maman est souffrante depuis 50 ans maintenant, depuis la mort de mon frère qui était tout jeune.
Alors, on va y revenir, effectivement, parce que j'ai l'impression qu'il y a un sacré nœud familial là, mais votre maman souffre de quoi?
Ma maman, elle souffre de Parkinson, elle est diagnostiquée Parkinson, mais en fait, ça fait des années qu'elle traîne ça, mais le diagnostic n'a été fait que tardivement, pour des raisons que j'ignore, peut-être parce que je n'ai pas assez suivi ça.
Ne bougez pas trop, Miguel, je vous repère.
Ouais. Ah, pardon.
Voilà, merci.
Donc c'est une accumulation. J'ai toujours eu ma mère malade. De toute façon, j'ai toujours eu ma mère malade et toujours vu ma mère souffrante.
Donc, ça faisait beaucoup à gérer pour vous, là.
Voilà, le Parkinson n'est que la suite logique, si j'ose dire, de ce qui s'est passé dans notre vie.
Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, justement?
La mort de mon frère, il y a 50 ans, 71, donc ça fait 50 ans, ça fait 50 ans cette année.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Et mon frère est mort noyé dans un bassin derrière la maison, avec son meilleur camarade, son meilleur petit ami, avec qui il jouait. Et c'était un drame qui nous a plongé dans un désarroi dans lequel on a pu tenir grâce à mon père. C'est pour ça que quand mon père s'est effondré, là, c'était terrible, parce que c'est le pilier, c'est lui qui tenait tout, qui a tout tenu pendant ces années. Et donc, voilà.
Pardon, donc, quel âge avait votre frère quand ce drame est arrivé?
Il avait 5 ans.
Et vous?
Moi, j'avais 2 ans. 2 ans.
Ah oui.
Oui.
Et donc, il s'est noyé avec son petit copain dans un bassin. Dans un bassin. Oui. Il n'y avait personne pour les surveiller?
Ils avaient l'habitude d'aller là-bas et ce jour-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous savez, moi j'ai fait une enquête pendant il y a 2 ans. J'ai commencé à faire une enquête parce que on dit que c'est un accident, mais je suis tenté de croire que ça pourrait être autre chose qu'un accident. Mais c'est très délicat de parler de ça parce que ça pourrait incriminer certaines personnes.
J'ose même pas imaginer le drame, quoi. C'est une violence.
Ah ben c'est la chose qu'on ne souhaite à personne. C'est-à-dire que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Donc du coup, ça nous a plongé tous les trois.
Ah, c'est ça. C'est-à-dire que pour vous, vous avez aussi perdu les parents que vous aviez avant, quoi.
Complètement. Ben voilà, vous dites le mot, c'est-à-dire que en fait, souvent, on pense aux parents, on pense aux parents, à la souffrance des parents, ce qui est tout à fait normal. Souvent plus à la souffrance de la mère que du père, alors que y a pas de raison. Et on pense pas à la souffrance des enfants, des frères et sœurs qui restent là.
Et qui perdent effectivement les parents qu'ils avaient.
Exactement.
Exactement.
On perd non seulement le frère, mais on perd aussi ses parents. Et moi, ce jour-là, j'ai perdu mes parents aussi.
Et oui, parce que quand on perd quelqu'un, une personne âgée, on doit faire le deuil de son passé. Mais quand on perd un bébé, on fait le deuil de son futur.
Oui.
Et la famille avec. Et c'est vrai que vous, du haut de vos 2 ans, c'est un tsunami qui vous est tombé dessus. Parce qu'en plus, j'imagine que... Qu'est-ce qu'on comprend à 2 ans d'un drame pareil, quoi?
Eh bien, c'est bien ça le problème, parce qu'on grandit et avec tous les non-dits qu'il peut y avoir et tout ce qu'on pense faire pour protéger l'enfant que j'étais, et en fait, c'était aussi beaucoup de maladresse. Mais
c'est pire que tout, les non-dits, parce qu'un enfant sent les choses, et oui, évidemment.
Complètement. Ouais. Complètement. Et donc, et puis il n'y avait pas à l'époque des médecins ou des psys. Dans
J'allais
tous les
vous
cas,
poser la
des...
question, justement,
ouais,
évidemment.
Bien sûr, ouais, bien sûr. C'est passé dans un petit village, on n'avait pas les moyens que l'on a aujourd'hui de parole, d'accueil de la parole et d'accompagnement. Donc, mes parents ont été livrés à eux-mêmes.
Dans un gouffre émotionnel, j'imagine, épouvantable.
Et moi, je n'ai pas été suivi non plus. Enfin, voilà. Bon, plus tard, quand je suis devenu un jeune homme, après l'adolescence, j'ai eu besoin, moi, de faire un suivi thérapeutique pour faire un travail sur moi et essayer de comprendre et de souffrir moins de tout ça.
Et vos parents, comment ils ont tenu? Comment ça s'est passé concrètement au quotidien? Alors, comment ils ont fait?
Oh, je pense que mon père a mis des œillères et il a tracé droit. Il a tracé tout droit. Et ma mère a sombré dans une forme de folie, de dépression, qui a été son lot quotidien depuis alors. Et moi, je me suis agité au milieu de tout ça en étant le garçon, on dirait, l'enfant modèle. J'étais le premier à l'école, j'étais bien, quoi. Il fallait que je sois bien, il fallait que je sois responsable. Et en même temps, on prend conscience de ces situations, dans ces drames-là. Les enfants, les jeunes enfants, vous vous doutez que j'ai beaucoup lu sur le sujet, je me suis beaucoup renseigné, j'ai essayé de comprendre. Bah, c'était terrible parce qu'à l'époque, je ne savais pas. Je voulais rencontrer des gens comme moi pour comprendre si ce que je ressentais était correct. Vous voyez ? Mais à l'époque, j'avais pas. Alors je me trouvais anormal parce que je me dis, mais je n'arrive pas à comprendre ce que je ressens. Et pour moi, bah, voir ma mère pleurer tous les jours, voir mon père fuir dans le travail tous les jours, je comprenais pas. Et puis j'étais seul dans ce désarroi avec ces grandes photos de mon frère qui était dans la maison. Enfin voilà.
Ah, ce donc, sont des parents qui n'ont pas fait le deuil en réalité, alors qui ont continué à.
Oui.
À laisser sa presse. Est-ce qu'ils ont par exemple laissé sa chambre à coucher ou quelque chose comme ça, ses affaires?
Non. Parce qu'ils ont déménagé, mais il y avait, quand on allait en Espagne, chez nous, il y avait toujours dans ma chambre deux lits jumeaux et sa grande photo suspendue dans la chambre. Ouais. Donc, il était toujours présent par les photos. Dans ma chambre, il y avait une commode et cette commode était un hôtel.
Je vous repère, Miguel.
Vous m'entendez là?
Oui.
Oui, j'ai pas bougé. Je vous disais que dans ma chambre, il y avait un hôtel aussi. C'était une commode avec les photos de mon frère, etc. Et en fait, après coup, je me rendais compte que c'était un hôtel. J'avais d'ailleurs une espèce de rituel qui était le même tous les soirs. Il fallait que j'embrasse la photo. Il fallait que je. Voilà, donc j'avais, moi, une façon de me protéger dans du rituel. Et.
Parce qu'on ne vous a pas laissé beaucoup d'autres choix, finalement.
Ah ben non, mais je ne leur en veux pas, parce que je pense qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Je ne leur en veux pas. Et c'est maintenant que je me dis que si je les vois vieillir de cette façon-là maintenant, et avec autant de souffrances toujours présentes, c'est le fruit de ce qui s'est passé aussi, quoi.
Et toute cette souffrance, à bout d'un moment, c'est une accumulation qui ressort aujourd'hui par les maladies, vous pensez, oui.
Oui, parce que mon père, par exemple, quand je l'ai vu après l'AVC, chose que je n'avais jamais vue, j'ai vu mon père pleurer, et pleurer pour des détails. Ces dernières semaines, il se met à pleurer, mais comme un gosse, à chaudes larmes. J'ai dit, mais qu'est-ce que. Cet AVC lui a permis de lâcher.
De baisser les barrières.
De ne plus contrôler. Et ça, c'est assez émouvant, c'est fort, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il aurait bien été pour lui qu'il pleure avant, mais.
Eh oui, mais comme vous avez dit, il a été un roc aussi.
Complètement.
Et peut-être que les œillères, ça lui a permis, lui, de tenir debout, et être un roc, ça lui a permis aussi de garder un rôle important pour vous tenir, votre maman et vous.
Oui,
le problème, c'est que le roc, comme vous dites, au bout d'un moment, là, il s'est fêlé, quoi.
Complètement. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, de dire de ce vacarme, de ce bouleversement. C'est un bouleversement énorme, énorme. Et pourtant, je ne suis pas un gamin, hein. J'ai 52 ans, enfin voilà. Mais je me retrouve pour le coup comme un gamin, quoi, parce que je me retrouve à devenir trop vite l'adulte que. Voilà, il y a une accélération, qui se fait là maintenant.
Est-ce que vous pensez que vos parents ont fait le deuil ou toujours pas ?
Je sais pas, je sais même plus. Je sais même plus parce que j'ai commencé à. J'ai eu besoin à un moment d'en savoir plus. Donc je suis retourné dans ce village et j'ai fait une chose que je n'avais jamais faite pendant toutes ces années, c'est que j'ai posé des questions. Et en fait, je me suis rendu compte dans mon village que tout le monde le savait, tout le monde. Et vous savez, un peu ce.
Oh bah c'est une histoire qui marque, ça, j'imagine, forcément.
Voilà. Oui. Et donc, j'étais. Comment dirais-je ? Donc, je suis allé chercher des informations parce que tout ce que j'avais comme information n'était que par le truchement et par la vision de mes parents.
Ah oui.
Et donc, oui. Je suis allé entendre la parole d'autres personnes et j'ai pris des notes, j'ai cherché. Je me suis rendu compte qu'effectivement, mes parents n'ont pas fait les deux. Je me dis, mais pourquoi ? Donc, ils passaient le deuil. Il y a d'autres parents qui perdent des enfants et qui font le deuil, dans tous les cas, qui souffrent moins ou qui donnent l'impression de moins souffrir. Et je ne sais pas pourquoi, surtout ma mère. Ma mère est vraiment, je pense que c'est du culturelle, mais il y a du, quelque chose de sacrificiel chez elle, de très très fort, quoi. Il y a un sentiment de culpabilité énorme. Je pense que mes parents, comme tous les parents qui perdent un enfant, ils ont un sentiment de culpabilité énorme.
Sauf que là, il y a eu un accident, donc c'est encore pire. Et je me demandais, l'autre maman, les autres parents, est-ce que vous avez eu des liens avec eux? Comment est-ce qu'eux ont vécu ce drame?
Oui, ils ont la vie a pris le dessus, je pense, plus chez eux que chez nous.
Ah oui.
J'ai pu le constater. Oui. Voilà, donc ils étaient déjà, la fratrie n'était pas la même, ils étaient trois, donc il en restait deux. Mmh. Ils ont la vie, j'ai l'impression, oui, que la vie a pris le dessus. Je ne veux pas trop parler pour eux, mais en tous les cas, je sais que le papa a été fragilisé comme ma mère, et la mère a été aussi solide que mon père. Voilà, c'était un peu le miroir. Ouais, c'est un peu l'inverse.
Vous parliez de culpabilité, mais c'est vrai que quand on perd un enfant, c'est déjà un drame. Et quand en plus il y a un accident, là j'imagine qu'on doit effectivement s'en vouloir toute sa vie. Se dire, mais
oui,
une seconde d'inattention et voilà quoi, ce qui se passe.
Oui. Et ça, c'est irrémédiable. On ne peut pas y remédier. On ne peut pas y remédier à ce sentiment de culpabilité.
Là, dans un cas comme ça, c'est effectivement très difficile. Ouais.
Et ce sentiment de culpabilité, il transpire. Et moi-même, j'en suis complètement imbibé, j'en suis conscient. Hein, parce que pour moi, profiter de la vie, jouir de la vie, et ça me demande, ça me coûte.
C'est comme si vous n'en aviez pas le droit parce que lui n'est plus là.
Exactement. Exactement. Ouais. Ah, oui, complètement.
Vous ne vous autorisez pas à être heureux?
Je ne pense pas, non. Je ne pense pas.
Je vais vous embêter, Miguel, mais je vous assure que régulièrement, j'ai l'impression de vous perdre, comme si vous bougiez dans le combiné.
Alors attendez, vous m'entendez là?
Ah, plus du tout.
Bougez pas. J'ai enlevé la coque de mon téléphone, c'est mieux comme ça?
Ah, ben là, pour l'instant, c'est parfait, parce que c'est régulièrement.
C'est peut-être la coque, excusez-moi, je vais enlever la coque de mon téléphone.
Merci beaucoup.
Désolé, je suis vraiment désolé.
Non, mais c'est important ce que vous me dites là, effectivement, et vous l'avez bien analysé, c'est que s'autoriser à vivre déjà. Et à être heureux dans un contexte de parents qui ne se sont jamais remis de ce décès.
C'est indécent.
C'est parce que j'allais vous dire, c'est indécent. En tout cas, c'est comme ça que vous le vivez, vous.
Complètement.
De quel droit je serais heureux alors que mes parents sont désespérés?
Exactement.
Oui.
C'est exactement ça.
Et pourquoi moi je vivrais, puisque mon petit frère n'a pas eu cette chance-là, quoi.
Exactement.
Non, votre grand frère, parce que vous étiez petit à l'époque. Oui.
Donc voilà, et ce qui est terrible, c'est que les années passent, comme je vous disais, j'ai 52 ans, et je me dis, bon, on pourrait penser...
Ça continue, hein, je vous entends moins bien par moment. Non, c'est pas la coque, c'est comme si vous bougiez avec le téléphone.
Je bouge plus du tout, là, je suis vraiment statique.
Un pied en l'air, un bras tendu.
Voilà, très bien.
Là, parlez bien dedans, juste, c'est surtout ça.
D'accord. Donc là, je ne bouge plus.
J'ai perdu le fil aussi, pardonnez-moi. Là,
oui. Malgré les années qui passent, on pourrait dire que ça va se tasser. Et en fait, en voyant vieillir mes parents et en voyant, petit à petit se rapprocher de la fin,
c'est comme si ça remontait.
Oui, exactement. Exactement, ouais,
c'est
ça. Ça remonte.
Bah, c'est un peu normal, c'est-à-dire que la fin de vie de vos parents fait forcément redéfiler tout le film de la vie.
Exactement.
Et ça vous m'efface. Mais j'étais en train de me dire, puisque là vous avez l'impression, j'ai l'impression que vous êtes en introspection, est-ce que vous n'avez pas pensé à écrire toute cette histoire?
Oui, parce que, comme je vous disais, je suis allé dans mon village, j'ai fait l'enquête, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai voulu recueillir la parole des gens, des personnes qui étaient là, avec qui j'ai grandi toute ma vie, mais personne n'en parlait, quoi. Il y a eu tout autour de moi. Et donc, j'ai recueilli cette parole et j'ai eu un besoin énorme, mais vraiment physique.
Je ne vous entends pas très bien, Miguel, je suis désolée.
Je disais, j'ai eu un besoin physique d'écrire. Et je lui ai dit à mes parents, j'ai besoin d'en savoir plus. Je leur ai posé plein de questions, je n'avais jamais osé poser de questions. Et c'était en décembre 2019 où j'ai commencé à leur poser des questions. Et ils m'ont répondu à toutes mes questions. Avec mon père, je n'avais jamais parlé, vous vous rendez compte. Et mon père et mes parents n'avaient jamais plus parlé entre eux. c'était terrible.
Et tout ça, vous l'avez écrit pour vous ?
Oui, je l'ai écrit. Je l'ai écrit pour moi, c'était indispensable. Alors que je n'avais jamais écrit auparavant. Moi, je suis que comédien, chanteur, mais je ne suis pas auteur. Parce qu'il y a des gens qui écrivent dans la plume facile, moi pas du tout. Mais j'ai eu besoin d'écrire. J'ai écrit et ça m'a... Mais vous savez, j'ai écrit en pleurant. Je ne m'y attendais pas du tout.
Non, ça m'étonne
c'était
pas,
douloureux. C'était vraiment très douloureux. Très douloureux. Et je me disais, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu te fais mal? Pourquoi tu te fais mal? Mais il a fallu que j'aille au bout de cette écriture. Avec beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes. Et j'en ai fait un monologue. Et que j'ai eu l'occasion de lire à quelques personnes. Qui m'ont dit, mais il faut absolument que cette parole, on l'entende, parce que ce dont je parle là, c'est la fameuse résilience, hein. C'est un mot très à la mode, mais pour le coup, moi, je l'éprouve depuis ma naissance, depuis mes 2 ans. Et donc, je pensais en faire quelque chose que pour moi, oui. De manière égoïste, parce que, pas de égoïsme, disons que c'était que pour moi parce que c'était une nécessité. Mmh. Voilà, une nécessité. Et donc, quand je l'ai lu, on m'a dit, mais il faut que tu le montres sur scène. Je l'ai montré sur scène et les personnes étaient bouleversées. Et moi, j'étais bouleversée de voir qu'elles me disaient que elles aimeraient ou elles auraient aimé parler de leur souffrance comme ça aussi, ou de leur nom dans les familles.
Mais parce que je pense que c'est un thème qui touche tout le monde d'une manière ou d'une autre.
Oui, oui, oui. Et donc j'en ai fait un seul en scène que je joue là. Je vais jouer sur Paris. Et,
parlez-moi un petit peu de ça.
Ben oui, c'est très récent. Hein. Ça va se faire là maintenant. Je joue là, du 27 au 30 octobre. Et après, on va essayer à nouveau en décembre. On va essayer de... j'ai rencontré un producteur qui a été très séduit par l'écriture. Et puis, il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, qui me disent, allez, vas-y, fonce. On a envie de te voir dans ça. On a envie d'entendre cette parole-là. Donc là, je vais jouer à Paris, à l'Archipel, la semaine prochaine. D'accord. Et après, suite à ça, on va voir si... Mais vous savez, ce qui est quand même terrible dans ça, c'est que j'ai eu l'occasion de le jouer en avant-première, vraiment en catimini. C'est que les gens m'applaudissent à la fin. C'est terrible, en fait.
C'est ce que j'allais vous demander. Comment vous vivez le fait de partager ça? Parce que c'est chose d'écrire dans son coin et une autre de partager ça avec des inconnus.
Oui, ben oui, mais vous savez, moi, quand j'ai écrit ce texte-là, et quand je me suis dit, bon, je vais le lire, je vais le faire pour moi, je vais le montrer à quelques personnes. Et quand à la fin, je sens que les gens, la plupart du temps, les gens sont en pleurs parce que ça les a profondément touchés et parce que ça leur remue des choses dans leur histoire. Et ensuite, quand les gens m'applaudissent ou viennent me féliciter, je me dis, mais c'est horrible, quelque part, c'est horrible. Je me dis, ils sont en train d'applaudir le malheur qui a été le
mais
nôtre.
Mais bien sûr que non, Miguel. Ils sont en train d'applaudir.
Bien,
mais non, mais vous savez très bien. Là, c'est de l'autoflagellation. Attention, vous vous interdisez une fois de plus.
Oui, la jouissance.
Exactement. Attention à ça. Ouais. Ils applaudissent votre sensibilité probablement et le talent avec lequel vous dites ce texte et surtout votre profonde sincérité qu'on entend d'ailleurs ce soir à l'antenne. Mmh. Et là, une fois de plus, maintenant que vous en prenez conscience, vraiment s'il vous plaît, autorisez-vous à ça. Acceptez aussi les applaudissements.
Ah ben, et je ne vous cache pas que là, je suis à quelques jours de la première et je me dis, mais de quel droit je fais ça? Les gens vont venir et je me dis, mais comment est-ce possible de leur imposer ça et en même temps de dire aux gens, les gens qui vont m'applaudir ou apprécier ça, je me dis, mais ça parle d'un malheur, ça parle... Mais ce que j'ai compris quand j'ai eu l'occasion de le lire ou de le jouer au mois de juin, je me suis rendu compte que ça fait du bien. Les gens me disent que ça leur fait du bien. Donc, pour le coup, vraiment, je ne m'attendais pas du tout, c'était pas du tout l'effet recherché.
Je comprends pourquoi mon intro a résonné en vous. Alors tout à l'heure, c'est un
ah ben oui,
un curieux hasard.
Ouais, ouais. Oui, oui, les mots là. Donc oui, oui. Donc voilà. Donc et maintenant, c'est très, c'est très excitant de savoir, parce que je joue à Paris, je suis monté à Paris pour faire ce métier, pour prendre la parole, justement. Parce que moi, je le dis dans mon texte d'ailleurs, je le dis, moi, depuis l'âge de 4-5 ans, mon père me disait, quand j'étais gamin, il me disait de monter, quand je montais sur les tables dans les restaurants, et il me disait, tape plus fort quand je chantais, il me disait, tape plus fort avec les pieds, je paierai la table. Et en fait, mon père me disait, vas-y, chante, il fallait que je chante, le spectacle.
En faisant ça, il vous a aidé à quand même prendre votre place qui finalement était, que vous n'osiez pas prendre. J'ai entendu que vous étiez un petit garçon qui ne faisait pas de vagues, parce que quand on a des parents qui souffrent tellement, on essaie effectivement d'être le plus parfait possible pour ne pas en rajouter. Et en faisant ça, votre père vous a quand même autorisé à casser le cadre.
Oui, et c'est pour ça que quand il a failli mourir sous mes yeux et que je sens que j'ai l'occasion de me reconnecter, d'être très fortement connecté à lui, ça a été terrible. Heureusement qu'il n'est pas parti à ce moment-là, qu'il est encore là, qu'il retrouve ses esprits, et je suis très tactile avec lui, j'ai besoin de le caresser, de l'embrasser, de lui dire combien je l'aime et de lui dire combien je l'admire surtout. Et maintenant, il est devenu un petit bébé, mais je m'occupe de lui comme il s'est occupé de moi. Il venait toujours me chercher à l'école, il a toujours été très 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 présent, il a été solide, et j'ai envie de lui rendre hommage aussi, parce que dans ce spectacle, mon père était maçon, et à un moment je lui dis et toi tu nous rebâtis le monde avec ta truelle. Donc voilà, j'ai des mots avec mon père très fort.
Miguel, merci beaucoup, c'est un très beau témoignage. Si vous le permettez, vous n'allez pas raccrocher, je vais vous repasser mes assistants. Et avec votre autorisation, je mettrai le lien vers votre spectacle sur ma page Facebook Sabine Marin demain.
Merci beaucoup, c'est gentil.
Pour les gens qui seraient intéressés et qui auraient envie de prendre contact avec vous ou d'aller vous voir.
Merci.
C'était très touchant votre histoire, votre témoignage. Merci beaucoup de votre confiance, Miguel.
Merci.
Et vraiment, comprenez que vous avez le droit d'être heureux. Il y a encore un petit chemin à faire, là, de ce que j'entends.
Oui, tout à fait.
Quoi qu'il se soit passé, chacun a son chemin de vie. Et le vôtre n'est pas celui de votre frère et n'est pas celui de vos parents non plus. Votre énergie à vous est différente et vous avez le droit d'apprécier le bonheur, le succès, la réussite.
Merci beaucoup.
Vous ne raccrochez pas, comme ça vous laissez les coordonnées de votre spectacle à Cindy ou à Nicolas. Et je mets ça sur ma page Facebook demain. Merci beaucoup de votre appel, Miguel. Je vous embrasse.
Merci à vous, Sabine. Au revoir. Merci.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Et je vais faire maintenant la connaissance d'Alexa. Bonsoir à vous, Alexa.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Qu'est-ce qui vous amène ce soir sur la libre antenne alors ?
Alors, ce qui m'amène, c'est un problème avec ma fille de 19 ans. C'est-à-dire que j'ai divorcé il y a 4 ans maintenant. Ça a été, je pense, douloureux pour elle, mais bon, qui en a jamais trop parlé. C'est une jeune fille qui est un peu renfermée, qui n'exprime pas trop ses sentiments.
Même avant la séparation ?
Oui, même avant. Pas trop, mais un peu quand même. Mais bon, elle s'est quand même plus expansive. Et puis, on a vécu 3 ans, toutes les deux, vraiment en complicité assez importante.
Vous n'avez qu'elle comme enfant ?
Non, j'ai une grande qui était partie à la faculté faire ses études. Donc, d'accord, on s'est retrouvés que toutes les deux ensemble.
Ouais.
Donc, on avait une très bonne complicité. Enfin, tout se passait très bien. Et puis, jusqu'au décès de ma maman, où ça a été un choc émotionnel très important pour moi, effectivement, puisque j'étais très, très fusionnelle avec elle.
Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre maman ?
Elle a eu un cancer.
Ah oui, donc c'était... Elle avait quel âge ?
71 ans, mais bon, ça a été un cancer fulgurant, quoi, parce que moi, elle est partie en 6 mois.
Oui, c'est ça, j'entends que c'était quelque chose que vous ne vous y attendiez pas du tout, quoi.
Non, pas du tout. Non, ouais. Vraiment, on a été vraiment sous un choc très important. Surtout que c'était quand même, dans notre famille, c'était un peu le pilier de tout le monde, quoi, on va dire. Moi, je suis issue de 5 filles et vraiment, c'était elle qui portait le pilier de toutes, quoi.
C'est une famille de filles, c'est marrant.
Oui.
Et
donc
pour,
c'est vrai.
pourquoi avez-vous divorcé, Alexa? Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je me suis éloignée de mon conjoint parce qu'on a eu des difficultés de communication, je pense.
Mmh.
Et c'était quelqu'un de très jaloux, de très... Enfin oui, de très jaloux. Et puis professionnellement, il a eu des soucis qu'il n'a pas pu, où il n'a pas su relever le problème. Et puis, et à un moment donné, ben, c'était... Je pense que ça aurait été ma santé qui en aurait pris un coup, donc je ne voulais pas, quoi.
Est-ce qu'il n'était pas violent?
Non, du tout.
Non.
Ah non, non, du tout.
D'accord.
Non, non, non,
mais
du tout.
Est-ce que vous avez pu en parler avec vos filles des raisons de ce divorce?
Ben non.
On c'est parlait de mots, justement, mettre des mots sur tout ça.
Ouais.
Non.
C'est vrai qu'on n'en a jamais évoqué. Non, et elles m'en ont jamais parlé non plus.
Ah.
Et c'est vrai que maintenant que vous le dites, ça c'est... Ouais. Non,
et à votre avis, où vont tous les mots qui n'ont pas été dits? Et en quoi ils se transforment?
Ben, un malaise, hein. Enfin, dans un mal-être. Hein.
Oui. Ils sont quelque part, forcément, ces mots-là.
Ouais.
Ils font des nœuds à l'intérieur.
C'est vrai.
Ou ils donnent du poids, ou ils donnent des complexes, ou ils donnent une maladie, ça dépend de chacun.
Ben là, je pense que ma fille, elle, c'est plutôt donc au niveau du poids. Il y a 3 ans, je suis allée voir une diététicienne avec elle.
Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mise à manger plus ou à manger mal ou à quelle était
la... Alors, moi je l'ai pas. Enfin, il y a 3 ans, elle commençait à grossir. Moi je la voyais pas manger plus puisqu'elle était avec moi, donc je voyais ses repas. Au niveau des repas, c'était exactement les mêmes que les miens.
Ah oui, mais attention, on ne voit pas toujours ce qui se passe en dehors, la nuit. Ou...
Voilà, exactement.
Oui.
Donc, je ne sais pas. Pour moi, elle mangeait normalement. Donc, j'ai pris les choses en main dans le sens où je lui ai demandé si elle voulait voir quelqu'un. Donc, elle m'a dit oui.
Redites-moi, quel âge elle avait il y a 3 ans?
Elle avait 16 ans.
16 ans, oui. En plus, c'est un âge un peu compliqué pour une jeune fille.
Ouais.
Ouais.
Donc, on y est allé. Et puis, ça s'est bien passé pendant 6 mois, on va dire. Et puis.
Mais attendez, c'est-à-dire, quand vous dites voir quelqu'un, c'est une nutritionniste.
Oui, c'est une diététicienne.
Donc, là non plus, il n'y a pas eu de mots sur la raison pour laquelle elle aurait grossi.
Ah, si, parce qu'on s'est expliqué, enfin, avec elle, moi je lui ai expliqué qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça, dans le sens où elle avait une prise de poids quand même constante, et elle s'en rendait bien compte. Elle s'en rend compte, hein, de toute façon, elle le sait. Hein.
Mais comment elle le justifie? Elle vous a dit qu'elle mangeait en cachette, ou comment?
Non, puisqu'il y a, je vais vous dire, il y a 3 semaines, on a eu une discussion là-dessus, parce que quand on se voit, c'est un peu houleux, et c'est toujours un peu... Parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Hein.
Ah.
Et il y a des fois, c'est vrai que je suis pas très diplomate ou très gentille, on va dire, dans mes mots, certainement, parce que je sais pas comment le formuler vis-à-vis d'elle.
On en parlera peut-être plus longuement dans la conversation. Après, on va voir ce que ça réveille chez vous, surtout.
Et finalement, elle m'a dit que pour elle, il n'y avait aucun problème, que c'était moi le problème, c'était pas elle.
Combien de kilos elle a pris, d'après vous, à peu près?
Comment?
Combien de kilos a-t-elle pris?
Oh, je ne sais pas, 30 kilos peut-être.
Ah oui, oui, on ne parle pas d'une légère prise de poids, là, effectivement.
Ah non, c'est pour ça que moi, ça m'inquiète beaucoup. Mais pour elle, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, que c'était moi qui en faisais toute une montagne, mais qu'elle...
Oui, elle est dans le déni complet, forcément.
Exactement, elle est dans le déni complet.
Qu'est-ce qui s'est passé alors avec cette nutritionniste, cette...
Ça s'est bien passé, parce que pendant 6 mois, elle a perdu du... Enfin, pas 6 mois à peine, elle a perdu du poids, et on est toujours allé tous les mois, on avait une visite, une fois par mois. Et puis, quand ma maman est décédée, finalement, tout a été anéanti, quoi. Enfin, c'est revenu normal. Et la diététicienne lui a dit que, devant moi, elle lui a dit que si elle ne réglait pas ses problèmes psychologiquement...
Ah, voilà.
Voilà, il n'y a rien qui ferait et que, il n'y aurait pas de déclencheur, quoi. Il n'y aurait pas un élément déclencheur pour ça.
Ça n'allait pas venir de l'extérieur, la solution, évidemment. Vous savez, j'explique souvent aux gens qu'on porte... pratiquement toujours le poids de quelque chose ou de quelqu'un. Quand ça arrive comme ça, après, quand il n'y a pas de maladie ou de morphologie héréditaire, quand il se passe ce qui se passe avec votre fille, c'est forcément le poids de quelque chose ou de quelqu'un. Et tant qu'elle n'aura pas compris ça, et que la solution ne viendra jamais de l'extérieur, elle ne viendra pas avec un régime non plus. Ouais. Parce que se mettre en régime, c'est être, je l'explique souvent, ça, se mettre en régime, c'est se mettre en guerre contre une partie de soi-même. Il y a une partie d'elle-même qui, pour se protéger, se jette dans la nourriture doudou. Ce que l'on appelle la nourriture doudou. Et cette partie d'elle, elle a besoin de se protéger, et c'est la seule solution qu'elle a trouvée. Et se mettre au régime, c'est se battre contre une partie d'elle qui veut la protéger.
D'accord.
Donc c'est une guerre interne. C'est un chaos interne insurmontable, puisque s'il y a une partie d'elle qui gagne en perdant du poids, la partie qui veut la protéger perd en s'affolant.
C'est un cercle.
Et ça peut la rendre agressive, évidemment. Et si en plus Et si vous, en face, ça vient chatouiller chez vous quelque chose dont on va peut-être parler après, en résonance, on est un peu dans ce qu'on appelle une impasse.
Ça la rend agressive. Hein. Enfin, en tout cas, vis-à-vis de moi, elle y est, ça c'est sûr.
Puis elle doit l'être intérieurement vis-à-vis d'elle-même aussi, parce qu'elle doit détester la partie d'elle qui prend du poids, et en même temps, elle sait inconsciemment que cette partie-là veut la protéger. C'est vraiment ce qu'on appelle la nourriture doudou, les kilos doudou, qui surviennent après une agression ou après un drame, après un traumatisme. D'accord. Après quelque chose qui est resté coincé. Quand je vous disais où sont passés tous les mots qui ne sont pas sortis, elle les a transformés en kilos.
En kilos,
Et il est vraiment, elle continue à être dans le déni, ou elle commence à envisager que peut-être il faudrait parler.
Ah non, elle est complètement dans le déni, parce qu'il y a 3 semaines, quand j'ai voulu aborder le sujet, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, c'est toi le problème, c'est pas moi. Elle m'a dit, moi je suis très heureuse comme ça. Elle m'a dit, je vois pas pourquoi tu me parles de ça.
Alors, passons à vous maintenant justement. Qu'est-ce que ça déclenche chez vous de la voir comme ça? Qu'est-ce que ça vous fait? Quelle est la première émotion qui vous vient quand vous la voyez avec ce poids? Avant que vous me répondiez, juste comme ça, j'ai juste l'impression que c'est la colère qui monte en premier, pratiquement.
Non, mais ça me rend triste de la voir comme ça, parce que, je veux dire, c'est une jeune fille qui est très jolie. Enfin, je veux dire, elle a plein d'atouts pour elle. Et au final, c'est même pas ça. C'est de voir ce corps qui aujourd'hui est tout habillé. Quoi. Enfin, moi, ça m'a... Aujourd'hui, ça me choque et ça me rend ça me rend triste. Franchement, ça me dépasse. Qui m'agace, c'est qu'elle en prenne pas conscience déjà, et de se dire il faut que je fasse quelque chose. C'est pas pour moi, parce que moi je lui ai écrit une lettre parce que j'étais tellement mal que quand je la vois, maintenant j'ai pris un peu de recul là aujourd'hui, parce que de toute façon je me dis ça sert à rien autrement d'être toujours en confrontation, et puis quand on se voit, autrement, on est toujours agressif l'un envers l'autre. Donc ça,
mais oui,
possible,
parce que vous parlez de tristesse, mais vous parlez aussi d'agacement, et l'agacement, ce n'est pas de la tristesse.
Non,
l'agacement, c'est un début d'énervement, déjà.
Oui, voilà. Parce que ce qui m'agace, c'est qu'elle n'en prenne pas conscience. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si elle se voit, finalement.
Le problème, c'est que... Si vous permettez, on va marquer une pause, le temps des infos.
D'accord.
Et on va discuter ensuite de la prise de conscience de l'une et de l'autre, et de comment chacun voit les choses.
D'accord.
Ce qui n'est jamais simple, surtout dans des situations comme ça, mais c'est important justement de mettre enfin peut-être ce soir des mots sur tout ça. D'accord, Alexa, on fait une pause et je vous récupère de l'autre côté du journal.
D'accord, entendu.
Merci à vous, à tout de suite.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Presque 7 minutes sur Europe 1, bienvenue si vous nous rejoignez seulement. Vous êtes bien sur la libre antenne et je vous remercie d'être avec nous. Merci pour votre fidélité, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Si vous avez envie de parler, de prendre la parole ce soir, de mettre des mots sur ce qui vous arrive, vous tapez simplement le 39-21 et vous vous laissez guider jusqu'à Cindy ou Nicolas qui vous accueilleront au standard. Pour réagir par SMS, donner votre avis, apporter votre soutien, poser une question, demander à être mis en relation avec quelqu'un, vous connaissez le principe maintenant. 7 39 21, suivi du mot nuit et de votre message. Et puis je vous rappelle notre adresse mail, Libre Antenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et je vous retrouve, Alexa.
Oui.
Donc vous m'avez appelé ce soir pour me dire que vous aviez un souci avec votre fille qui a 19 ans et qui depuis l'âge de 16 ans a pris énormément de poids puisque vous me parlez de plus de 30 kilos. Suite à la fois à votre séparation avec son papa et à la perte de sa grand-mère, de votre maman à vous. Donc aujourd'hui, et d'un conflit un peu latent entre vous, d'une tension on va dire. Donc si vous voulez, aujourd'hui la situation est telle que je vais vous la présenter comme je l'imagine avec une métaphore. Vous savez que je fonctionne beaucoup par image.
Oui.
Imaginez qu'entre elle et vous, il y a une grande feuille blanche et vous de votre côté, vous écrivez un gros 6. Et vous lui dites, mais je te jure, c'est un 6, c'est comme ça. Et elle vous dit, non, c'est un 9. Et elle n'en démord pas.
Oui.
C'est-à-dire que chacune a sa carte du monde.
Mmh.
Et ce que je vous propose pour essayer de dénouer un peu tout ça, c'est qu'on aille voir ce qui se passe de chaque côté. On va d'abord se placer de son côté à elle. C'est-à-dire, ce que je vous disais, c'est qu'elle porte le poids de quelque chose ou de quelqu'un.
Mmh.
Et donc, vous m'avez dit, quand il y a eu cette séparation avec son papa, il n'y a pas eu de mots qui ont été mis là-dessus. Il n'y a pas eu d'explication.
Non, pas vraiment.
Comment ça se fait? Est-ce que vous avez eu peur d'en parler ou ça ne s'est pas présenté ou vous n'avez pas été aidée? Je ne sais pas.
Ben, je pense que ça ne s'est pas présenté. Et puis, j'étais dans une relation de couple où la communication était très compliquée. Et je pense que du coup, je n'ai pas su expliquer après, l'après-coup. Finalement, je suis restée dans ma problématique à moi, et j'ai pas su l'expliquer aux filles.
Chacune dans sa bulle, quoi.
Oui, voilà, on a été chacune dans notre bulle, c'est exactement ça. Oui.
Et quelles étaient ses relations avec son papa depuis l'enfance?
Eh ben, ils étaient très complices.
Ah.
Mmh. Ouais, et du jour au lendemain, voilà, tout s'est envolé.
C'est-à-dire qu'il n'a pas maintenu de lien avec elle?
Très peu, finalement. Ça a été ma grosse déception, finalement.
Et oui, comment ça se fait, d'après vous?
Eh bien, parce que je pense que c'est quelqu'un qui pensait... Parce que c'est moi qui en ai pris la décision, déjà, et je pense qu'il ne pensait vraiment pas que j'allais le faire. Il pensait que, je ne sais pas, que j'étais peut-être quelqu'un de faible, ou je ne sais pas, enfin... Il ne pensait vraiment pas que la décision viendrait de moi, je pense.
Et c'est-à-dire que ça serait, si je comprends d'après vous, une sorte de vengeance?
Bah peut-être un peu, mais bon, après les enfants n'ont rien à voir.
Voilà, j'allais vous dire, ils se trompent de cible.
Ouais, voilà, c'est ça, parce que les enfants n'ont pas lieu de régler les problèmes d'adultes. Hein.
Ce serait très dommage. Mais est-ce que lui vit avec quelqu'un maintenant?
Non, il a quelqu'un, mais il vit pas avec.
Donc il n'a même pas l'excuse que d'avoir une femme qui pourrait éventuellement être un frein à ce qu'il voit ses filles souvent. Qui...
Exactement.
Ouais, donc il y a vraiment un problème de ce côté-là aussi. C'est-à-dire que là, il y a un abandon. Il y a un abandon terrible pour votre fille.
Ah bah oui, hein, parce que bon, d'avoir eu un papa qui était très complice avec, et du jour au lendemain, il n'y a plus rien.
C'est comme s'il avait divorcé d'avec... Souvent, on divorçait d'avec vous, mais d'avec elle aussi, parce que souvent, on dit aux enfants, papa et maman divorcent, mais ça ne change rien à l'amour qu'on vous porte. Or là, visiblement, ça n'a pas été ça.
C'est ce qu'on leur a dit, c'est ça le pire. Enfin, moi, de mon côté, ça n'a rien changé, puisque je les ai avec moi.
Et oui.
Mais lui, non, finalement, c'est ce qu'il leur a dit, mais finalement, si, ça a tout changé, quoi.
Et complètement, puisque c'est vraiment comme s'il avait aussi divorcé d'elle du jour au lendemain. Alors qu'elle, elle n'avait rien à voir là-dedans. Pour la grande, c'est différent, vous m'avez dit, parce qu'elle elle est plus loin.
Elle est plus âgée, elle a un caractère complètement différent. Enfin, elle n'est pas du tout pareille. En caractère, elle est beaucoup plus dure, je veux dire.
Mm-hmm.
Et elle avait compris les choses il y avait bien longtemps, puisqu'elle me l'a dit. Donc, vous voyez, comme quoi les enfants comprennent vite.
Mais chaque enfant n'a pas les mêmes parents, parce que chaque enfant vit les choses différemment.
Voilà,
donc elle a pu voir votre couple d'une manière peut-être plus réaliste que la plus jeune, que sa sœur plus jeune.
Que la plus jeune, oui, c'est ça.
Oui. Donc, si je me place du côté de votre fille, donc pour elle, il y a ce double choc du divorce avec vous et avec elle finalement.
Mmh.
Il y a un silence qui l'enferme encore plus dans sa bulle, qui renforce son caractère un petit peu renfermé.
Oui.
Et puis il y a le départ de cette grand-mère. Quelle était sa relation avec cette grand-mère?
Bah, c'était une deuxième maman.
Et voilà.
Voilà. Elle se confie à elle énormément.
Ah, donc justement, cet enfermement, enfin, vous m'avez dit tout à l'heure, quel est le terme que vous avez employé ? Pas pudique, mais renfermée plutôt, c'est ça ?
Oui, elle est renfermée, ouais.
Mais avec elle, elle s'ouvrait, avec cette femme, elle s'ouvrait.
Oui, avec ma maman, elle lui disait des choses que même moi, je n'en avais pas du tout, je ne savais pas. Hein. Moi, elle ne m'en parlait pas, mais par contre, elle parlait à ma maman énormément.
C'est-à-dire que son seul espace, j'ai fait un lapsus dans ma tête et qui me paraît intéressant, je voulais dire son seul espace de liberté, j'ai pensé son seul espace de légèreté. Et,
ouais,
finalement c'était, ouais. C'est vraiment ça. Son seul espace de légèreté, c'était ça.
Ouais. Et ben, il a disparu.
Et là aussi, il a disparu et elle s'est renfermée dans sa bulle, sauf que sa bulle, c'est devenu une boule protectrice.
C'est ça.
Quoi.
Ouais, c'est tout à fait ça, finalement. Vous avez raison.
Donc ça, c'est de son côté à elle. Si on se place de votre côté à vous, est-ce que c'est une enfant que vous avez désirée ? Est-ce que vos deux filles, vous les avez désirées ?
Ah oui, oui.
Oui. Physiquement, vous êtes comment ?
Moi, physiquement ?
Oui.
Je suis mince.
Vous êtes mince ?
Oui.
Est-ce que ça a toujours été important pour vous, cette minceur ?
Oui, je pense, parce qu'on a été élevé, éduqué un petit peu dans ce système, dans ce sens-là. Donc, je pense que oui, mais je me suis déjà fait la réflexion.
Qu'est-ce qu'on vous disait, par exemple, sur votre physique quand vous étiez enfant ? Ou jeune fille ?
Mes parents.
Mais quand vous dites on m'a éduqué dans ce sens-là, c'est-à-dire que la silhouette était importante.
Je pense que l'image du physique, enfin surtout du côté de mon papa, ma maman non pas du tout. Là-dessus, elle était tellement bienveillante qu'il n'y avait pas du tout de, il y avait pas de problème. Mais je pense que c'est plutôt du côté de mon père. Il a toujours, il a une image de la féminité qui est très, pas gros, des gens. Parce que moi, dès qu'il aperçoit quelqu'un de fort, je l'entends des fois dire des choses. Et ça me fait du mal parce que je sais que ma fille, elle est forte aujourd'hui. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'il pense d'elle finalement ?
Et puis, elle a peut-être aussi entendu des choses humiliantes, forcément.
Alors, je pense, oui, mais pas par rapport à elle, parce que parce qu'ils s'entendaient très bien, hein. Enfin, avec mon papa, elle s'entend bien. Mais je pense que c'est des choses humiliantes qui n'est pas forcément pour elle. Mais ça doit la toucher, puisque elle, aujourd'hui, elle est dans cet état-là.
Évidemment.
Donc, je pense que mon père, il y a des fois, je sais pas, aux âges où ils ont, je sais pas, 80 ans, peut-être qu'on n'a pas conscience de ce qu'on dit. Enfin, je sais pas, hein, après, je sais
comme
pas.
Comme disait Miguel tout à l'heure, on est aussi très maladroit.
Même
en faisant attention, il y a beaucoup de maladresse aussi. Même si l'intention n'est pas mauvaise à la base, on peut faire très mal sans s'en rendre compte.
C'est ça.
Donc de votre côté à vous, ce que je comprends, c'est qu'il y a une maman qui est très proche de sa fille, qui est plutôt en plus une jolie fille, qui rentre dans ce schéma d'éducation qui est finalement une belle silhouette et la minceur, c'est important, c'est une valeur dans notre famille.
Voilà.
Et puis d'un seul coup, tout ça explose.
Voilà.
Et c'est puis ça. Je me demande si vous n'êtes pas, comme beaucoup de femmes, dans le besoin de contrôler les choses aussi, par besoin de sécurité.
Alors si, malheureusement, ouais.
Et là, j'arrive exactement au point où quand votre fille vous disait tout à l'heure, le problème, c'est pas moi, c'est toi. Elle a raison, mais pas dans le sens où vous le croyez. Elle a raison dans le sens où le problème, c'est que sur ce sujet-là, vous ne pouvez pas contrôler. Et vous savez que d'ailleurs, très souvent, les problèmes de poids pour les petits enfants, c'est du côté de la maman qu'il faut aller chercher parce que c'est la seule chose sur lequel l'enfant a du pouvoir. C'est ce que je rentre et ce que je sors. C'est les deux préoccupations de la maman sur lesquelles elle n'a pas le pouvoir.
C'est vrai.
Et oui. Et donc, quand elle vous dit c'est de ta faute, c'est pas dans le sens où elle l'entend elle, où elle le comprend elle, en tout cas intellectuellement. Mais elle n'a pas tort complètement, parce que c'est dans le sens où chez vous ça résonne. Et ça où ça fait mal, c'est que vous perdez le contrôle sur quelque chose que vous auriez voulu contrôler, presque besoin de contrôler parce que vous vous sentez mal par rapport à ça.
Ah oui, parce que quand je l'avais, c'est ce que je lui dis, mais c'est vrai, parce que quand je l'avais avec moi, en fin de compte, je pouvais contrôler les repas. Enfin, c'est ce que je veux dire. J'arrivais à faire, c'est moi qui fais les repas, donc je sais ce que je fais comme repas, enfin, ce que je mets dedans et tout ça. que là, ça fait 2 ans qu'elle est partie, et là, j'ai aucun contrôle, rien. Je peux pas, je sais pas ce qu'elle fait, ce qu'elle mange, ce qu'elle... J'ai aucun contrôle dessus, finalement.
Et voilà, et je pense que la première chose à faire, c'est de lâcher ça. De toute façon, vous ne l'avez pas, le contrôle. Donc, essayez de le garder désespérément, c'est vous taper la tête contre les murs.
Ouais.
Je vais vous raconter une toute petite histoire, c'est une petite métaphore que j'aime beaucoup, peut-être l'avez-vous déjà entendue. Mais c'est l'histoire d'un monstre et d'un tir à la corde, vous la connaissez ?
Non.
C'est comme si vous étiez en train de jouer au jeu du tir à la corde avec un horrible monstre qui est d'un côté d'un ravin et vous de l'autre. Il est très très laid ce monstre, il tire très fort et plus il tire, plus vous tirez. Le problème, c'est que vous avez l'impression de vous rapprocher de plus en plus du ravin. Et votre but à comprendre, c'est que l'enjeu pour vous, c'est pas de gagner à ce jeu de tir à la corde. C'est de lâcher la corde.
Mmh.
Et là, vous êtes dans une sorte de... chacune tire de son côté.
Mmh.
Et je pense que le premier service à lui rendre, c'est de lâcher ça. Elle sait qu'il y a un problème, évidemment, elle le sait. Aucune jeune fille de 19 ans ne peut prendre 30 kilos et vous dire « j'en ai rien à faire, je me sens bien ». C'est pas vrai.
Bah, c'est ce que je me suis dit quand même, c'est ça. Bah, c'est là que j'ai dit, mais enfin, moi, qu'est-ce que je peux faire quoi ? Parce que finalement, je peux rien faire. Quoi.
Alors, justement, si, mais pas, certainement pas en continuant à tirer sur la corde parce qu'elle tire de son côté encore plus fort.
D'accord.
Et plus vous allez lui mettre le doigt dessus, plus elle va dire « tu as tort, c'est pas vrai ». Et elle va se refermer parce qu'elle elle voit les choses d'une autre manière.
Mm.
Vraiment, en plus, pour ça, pour vous aider, il faut peut-être aussi comprendre pourquoi ça vous agace. Vous me disiez avant les informations, ça m'agace. Donc là, on a mis le doigt sur le problème de contrôle. Mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose aussi. Qu'est-ce qui vous agace ? Parce que la tristesse, ça, c'est lié au fait que vous ne pouvez pas contrôler. Mais d'où vient cet agacement de l'avoir grossi ?
C'est le fait qu'elle prenne du poids comme ça et qu'elle est dans un déni total, quoi. Je me dis, pourtant, elle se voit. Non, puis ce qui m'agace aussi, quelque part, c'est que face à ça, elle s'est éloignée de moi, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a plus les mêmes rapports. On a passé 3 ans ensemble avec une complicité, on ne s'est jamais fâché, on ne se disputait pas. Enfin, on était vraiment... c'était tout bien. Et là, aujourd'hui, en fin de compte, c'est tout mal. Quoi. Enfin, elle s'est éloignée.
Mais attendez, elle est partie il y a 3 ans ?
Il y a 2 ans maintenant, parce qu'elle est en deuxième année de fac.
Et ça correspond aussi au moment où elle a commencé à prendre du poids ?
Ouais. Aussi, oui.
Alors ça aussi, quelquefois, j'en parle symboliquement. Est-ce qu'elle a beaucoup de ventre ?
Oui.
Eh oui. Et symboliquement, ça correspond au bras de maman dont on peut encore avoir besoin.
Oui. Ah oui.
Eh oui.
Oui. Ça sait aussi. Qu'elle peut compter sur moi.
C'est ça, plus ça, plus ça dans son histoire de vie, là, entre le divorce, le double divorce avec vous. Eh oui, ça fait beau. Et voilà, et ça fait 30 kilos. Ça fait 30 kilos. Et je pense que la seule manière de l'aider, c'est vraiment de lâcher prise sur cet agacement parce qu'elle le sent. Et elle doit en être 2 fois plus mal parce qu'à l'extérieur, elle ne vous le montre pas. Elle tire sur sa corde de son côté en vous disant « c'est tout va bien, moi je me sens bien ». Mais à l'intérieur, ça doit être un gros chaos pour elle. Il faut qu'elle sente que vous l'acceptez telle qu'elle est.
J'ai beaucoup, c'est ça qui me...
C'est là qui...
Aujourd'hui, je pense qu'il faut que je fasse aussi un travail sur moi, parce que moi, j'ai beaucoup... Enfin, bon, je commence un peu ce que je me suis... J'ai pris conscience que si je ne le faisais pas, j'allais la perdre. Et ça, c'est hors de question. Enfin, je veux dire, je ne veux pas. Hein. Donc, j'ai dit, il va falloir que j'apprenne à vivre avec. Enfin, que voilà, pour l'instant, il va falloir que je lâche du lest.
C'est un peu vers ça que je voulais vous amener, figurez-vous, depuis le début, Alexa. Mmh. Parce que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour elle. Tout en lui ouvrant doucement la porte, parce qu'elle commence à sortir de l'adolescence, donc elle sera moins braquée, à une thérapie. Alors si ce n'est pas une thérapie classique, proposez-lui de l'hypnose thérapeutique éventuellement, que les jeunes préfèrent parce qu'ils ne sont pas obligés de parler beaucoup et que ça ne dure pas des années.
Ouais, c'est ça.
Mais faites-lui savoir qu'il y a des choses qu'elle a besoin de sortir pour ne plus les garder sous forme de poids à l'intérieur. Et que ce qu'elle porte, c'est vraiment le poids de quelque chose et de quelqu'un. En l'occurrence, des événements qui se sont passés.
Mmh.
Et puis voilà, de cette grand-mère, de toute cette souffrance, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Et peut-être aussi de son départ dans la vie, de son envol qui est lourd finalement. Au moment où on prend son envol, il vaut mieux être un peu léger. Et c'est pas son cas du tout, quoi.
Non, c'est vrai. Non, ça n'aura pas été son cas.
Mais je pense que vous avez entièrement raison de vous dire qu'il y a quelque chose déjà à faire vous de votre côté. C'est pour ça que je vous parlais du 6 et du 9, parce que chacune voit les choses complètement différemment. Et chacune a raison. Il n'est pas question là d'avoir raison ou d'avoir tort. Il est question de comprendre comment l'autre fonctionne.
Oui, c'est ça. Oui. Bah oui, et puis de trouver un idéal, on va dire, entre les deux pour renouer des liens. Merci, quoi, qu'aujourd'hui...
Alors attention, je préfère le mot équilibre qu'idéal, parce que là, vous êtes encore dans le contrôle avec l'idéal.
Ah oui, c'est vrai. Et il va falloir que ça se fasse à mes mots. Hein.
Bah, les mots ont un sens et sont très importants, c'est pour ça que j'ai fait mon ouverture là-dessus aujourd'hui.
Ouais,
et si on savait à quel point ils nous influencent et ils influencent les autres, on ferait beaucoup plus attention à ce qu'on dit.
C'est vrai, exactement, oui, tout à fait.
Mais en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'elle a quand même la chance, cette jeune fille, d'avoir une maman qui l'aime très fort et qui prend le temps de se pencher sur le problème, de dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire ?
C'est gentil.
Hein. Mais c'est vrai, il y a quelque chose à faire et toutes les jeunes filles n'ont pas cette chance-là.
Donc ça, c'est... Façon, j'avais dit, je lâcherai pas. Hein. Enfin, je lâcherai pas dans le sens. Alors, c'est pas le contrôle. Hein, mais...
j'ai rien dit. Vous remarquerez que j'ai rien dit.
Mais j'ai dit, je lâcherai pas parce que je.
Non, enfin, c'est l'amour. C'est l'amour que vous ne lâcherez pas.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est non. Là-dessus, je serai toujours là. Il y a pas de souci.
Et puis faites-lui confiance. Un peu, dites-vous qu'elle n'a pas encore retrouvé son poids de forme. C'est temporaire. Vous n'êtes pas. Donc, je veux dire, il n'y a pas un problème d'hérédité dans la famille. Votre maman n'était pas quelqu'un de fort.
Non, mais du côté de mon mari, si, par contre.
Ah, du côté de votre mari, oui.
Ouais. Bon, je sais qu'elle ne fera pas à 36, hein, c'est ce que je lui dis. Ce n'est pas ce que je lui demande, hein, du tout. Hein. Après, ce que je lui demande, c'est qu'elle soit bien dans son corps et qu'elle puisse s'habiller, je veux dire, dans des choses de jeune fille. Quoi,
mais on ne peut pas demander ça à quelqu'un. C'est elle qui doit comprendre qu'elle doit travailler là-dessus pour être bien avec elle-même. Et pour elle a des deuils à faire. Elle a le deuil de son père à faire. Même s'il est vivant, c'est le deuil de cette relation qu'elle avait qu'elle n'aura plus. Elle a le deuil de sa grand-mère à faire.
Mais est-ce qu'elle peut le faire avec nous ? Ou est-ce qu'il faut absolument aller voir quelqu'un ?
À ce stade-là, je pense qu'il faut qu'elle voie quelqu'un, parce qu'il n'y a pas eu de mots entre vous. Alors, si vous en mettez, c'est bien, mais ça ne sera pas aussi intense et important qu'une thérapie, parce que 30 kilos, c'est quand même beaucoup.
Ouais, d'accord.
Ce n'est pas juste un petit dérapage, c'est qu'elle elle s'est engouffrée là, dans une protection, dans une carapace, et je ne pense pas que vous deux, vous arriviez à vous seuls à casser la carapace, quoi, ensemble.
D'accord.
D'autant que c'est compliqué parce qu'elle est quand même en opposition par rapport à vous.
Oui, tout à fait. Ouais.
Donc il faut que ça sorte avec quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre lui donne les outils pour qu'elle n'ait plus besoin de se protéger de quoi que ce soit. En tout cas, pas avec du poids. Avec de la confiance en elle. Quand elle remplacera les kilos par la confiance, ça ira beaucoup mieux.
Oui.
Et du coup, forcément, votre relation va s'assouplir et vous allez lâcher petit à petit, vous verrez.
Oui. je vais travailler.
Mais c'est formidable, en tout cas bravo Alexa, vraiment d'avoir le simple fait d'appeler pour en parler, c'est que vous avez conscience de ça et que vous êtes hyper investi dans cette relation et c'est une chance pour elle, vraiment.
Les mamans avant tout, hein. Je pense, mais bon.
Et oui, quand on a signé, c'est pour la vie.
Hein. Et oui, c'est ça, c'est pour la vie.
Bon, écoutez, j'espère que notre conversation vous a ouvert quelques portes.
Oui, tout à fait. Oui, très bien. Ouais. Je vais pouvoir un peu réévaluer tout ça et puis y repenser, en tout cas. Ça, c'est sûr.
Et puis, petit à petit, la diriger vers... je suis en train de chercher des bouquins que vous pourriez laisser traîner, qui pourraient être intéressants. Il faudrait que je réfléchisse à ça demain.
Parce que ce que je me dis, c'est que je ne sais pas comment je vais lui amener cette sorte de thérapie, parce que comme c'est une jeune fille qui ne veut pas parler à quelqu'un...
C'est pour ça que je vous parlais d'hypnose. Parce que là, vous ne serez pas en train de lui dire, voilà, tu vas t'asseoir face à quelqu'un et parler pendant des mois, mais tu vas faire une thérapie rapide qui pourra t'aider à te libérer de ces kilos superflus.
Ouais.
C'est... J'ai pas tout de suite à l'esprit des livres que je pourrais vous conseiller de laisser traîner discrètement pour qu'elle les voie quand.
Pour qu'elle les voie, oui.
Mais je vais y réfléchir et je mettrai ça sur ma page Facebook demain.
D'accord.
Je pense qu'il y a certains livres qui peuvent peut-être lui servir de déclic.
Hein. D'accord, ouais.
C'est sur la page Sabine Marin que je vais mettre tout ça demain.
D'accord, entendu.
Je vais y réfléchir demain matin et je vais vous conseiller peut-être quelques ouvrages qui pourraient être.
Ouais, bah oui, très bien. Hein.
Comme des petites lumières que vous mettez sur le chemin. On verra
voilà,
bien si elle les voit.
Les petits cailloux.
Et puis n'hésitez pas à me rappeler Alexa pour me dire, raconter dans quelques mois comment tout ça évolue.
D'accord, bah, je ne manquerai pas. D'accord, très bien.
Merci. Merci de votre confiance.
Merci beaucoup. Hein.
Merci.
Au revoir.
Au revoir, Alexa.
La libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin accompagne vos nuits.
Et c'est Pascal que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir à vous, Pascal.
Bonsoir, merci de me recevoir, c'est très gentil.
Avec grand plaisir, je suis ravie de faire votre connaissance.
Ben, je vous en prie, moi aussi. Je vais me répéter certainement, mais je vous écoute depuis plusieurs années. Et j'avoue que vous faites une émission qui est plutôt intéressante et puis constructive surtout.
Merci.
D'ailleurs, j'écoutais en attendant que vous me preniez, j'écoutais ce que vous disiez à cette jeune femme qui avait des soucis avec sa fille, qui avait des problèmes de poids. Et vraiment, j'ai vu là confiance. Comment vous avez dit remplacer la confiance par le poids, enfin,
remplacer les kilos, le poids par la confiance.
Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, ben, pile poil, quoi. On tombe exactement dans... Parce que j'ai aussi pris du poids, mais c'est absolument pas pour ça que je vous appelle. Enfin, en fait, je vous appelle parce que je vais être très concrète.
Alors...
je crois que là, c'est la... Vous m'entendez ?
Oui.
Oui. C'est en fait la petite goutte qui fait déborder le vase, en fait. Je suis propriétaire d'un petit bulldog français qui jusqu'ici allait très bien. Elle a 3 ans. Elle s'appelle Oli.
Elle s'appelle
et
comment?
En fait, Oli.
Oli.
Ouais. Et en fait, cette semaine, elle s'est comportée un peu bizarrement. Donc, au niveau du bas du dos, elle marchait un peu bizarre. Et bon, on a suspecté, bien entendu, une hernie discale, ce qui est très courant chez ce genre de chien, qui s'avère, ma foi, vrai. Mais il y a encore une petite goutte qui s'est rajoutée, c'est qu'en fait, je viens de découvrir que mon petit chien doré, il manque un rein.
Ah, et c'est maintenant que vous le découvrez?
Oui, c'est au bout de 3 ans qu'on le découvre, parce qu'en fait, ma petite Oli, elle a toujours bien, enfin, elle s'est toujours bien comportée.
Elle a bien fonctionné. Elle a marché comme
ça. Je ne sais pas comment dire. Voilà. Mais en fait, c'est voilé. Enfin, je pense que tout ça, c'est voilé parce que cette bête, je l'ai voulu. J'ai jamais rien à moi, mais je voulais un chien à moi. Je vis en couple, hein. Un couple un peu bizarre d'ailleurs, parce que...
Un peu chelou, vous avez fait dire, non?
Oui, j'allais le dire, oui.
Allez-y, lâchez-vous.
Excusez-moi, je vous en prie. Je suis désolée, ouais.
Oh, non,
parce que ça fait 12 ans que je suis avec mon compagnon. Au départ de l'histoire, c'était quelqu'un de charmant. Enfin, même extrêmement charmant, mais c'est le prince charmant, en fait.
Et trop beau pour être vrai.
Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Je vous parle pas de la vie d'avant parce que c'était terrible. Mais effectivement, c'était tellement beau et machin que voilà. Et puis, je suis quelqu'un qui... Je suis une ancienne femme soumise, battue. Enfin, bref, j'ai un lourd, lourd passé que je pensais... Enfin, que j'avais mis de côté, hein, avec cet homme qui m'apportait beaucoup. Et puis depuis quelques années, les choses se compliquent parce que en fait, il a un petit peu le même profil,
oui.
En dehors de la pathologie, qui est la maniaco-dépressivité ou la bipolarité, enfin,
oui.
L'orgueil de soi et j'en passe.
C'est une manipulation, la totale, quoi.
Ouais, je pense que je pense que c'est un peu la totale, enfin si, un peu la totale. Et ce chien, en fait, c'était pour moi, comment je peux dire, quelque chose qui m'appartenait, sans m'appartenir, parce que bien sûr la bête c'est la bête, hein, et je vis à son rythme, Mais en fait, ce chien, en fait, le chef de meute dans cette maison, c'est lui. Et en fait, pour dire, l'animal, il n'a Dieu que pour ma petite Oli, elle n'a Dieu que pour mon compagnon.
Ah.
Et en plus, on est allé choisir ensemble. Bien sûr, j'avais pas fait le bon choix. Elle était trop maigre, elle était trop agitée, alors qu'elle est adorable. Hein. Elle a 3 ans aujourd'hui, c'est vraiment une crème. Mais en fait, dans cette journée-là, aujourd'hui, je sais plus, on est le 22 ou 23 octobre, je sais plus, je viens d'apprendre que mon chien, en fait, il est pas du tout en bonne santé. J'ai abîmé ma voiture parce que j'étais stressée. Et mon compagnon, en fait, il n'a fait que me pourrir ma gueule aujourd'hui parce que, il n'a fait que m'engueuler. Parce que j'ai abîmé l'auto. Bon, voilà. Et encore une fois, j'ai un lourd passé que oui, je pensais avoir surmonté.
Et là, vous avez l'impression d'être en train de couler à l'intérieur à nouveau.
Ouais, voilà. Ouais. Et j'ai instinctivement allumé la radio ce soir. Je vous ai entendu et j'ai dit peut-être que cette dame qui s'est si bien parlé, qui s'est si bien donné des conseils, va pouvoir ou les auditeurs, bien sûr, vont pouvoir m'aider parce que là à nouveau, j'ai l'impression, moi je me suis quand même fait entendre encore aujourd'hui que j'étais bête, que j'étais conne, que je posais pas les bonnes questions et ça va pas quoi, ça va pas. Je peux pas accepter ça et je veux pas couler de nouveau, je veux pas pleurer, je veux pas. Je pense être une femme forte. J'avais aussi perdu mon travail. Enfin, j'ai retrouvé un travail que je viens d'apprendre que je vais perdre d'ici peu. Mais c'est pas grave. Je suis auxiliaire de vie. Je pense que dans ce métier, malheureusement, il y a du boulot. Oui. Sauf que c'était une famille qui me convenait bien, avec des horaires qui me convenaient bien, avec un profil d'aide qui me correspondait. Et je viens d'apprendre aussi aujourd'hui, dans l'après-midi, que voilà, ils allaient probablement être placés, ces gens. Enfin, voilà, ça plus ça, ça le compagnon, beaucoup. Ça va pas, le chien, ça va pas. Et j'ai l'impression d'être descendue au milieu du puits.
C'est ça, c'est l'image que j'ai.
Mais quelque part, votre émission, ça m'a fait un déclic. En fait, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé, j'ai expliqué qu'à la base, ça partait de mon chien. Bien sûr, je sais que c'est que la goutte d'eau.
Elle est importante, cette goutte d'eau.
Ouais, comme vous dites, elle est importante. Et là, je suis démunie, je suis perdue, en fait. Je sais pas, demain matin, là, quand je vais me lever, je sais pas quoi faire.
Il y a un stress là qui s'installe. On sent ça dans le ton de votre. Enfin, moi, je sens ça dans le ton de votre voix. Un stress une peur qui est en train de revenir.
Oui, bien sûr, j'ai peur. Ouais. Parce que j'espère que vous savez pas ce que c'est que de descendre au fond du trou. Je vous le souhaite pas, mais c'est dramatique. Et oui, j'ai vraiment l'impression que le fil est en train de casser, quoi. Et quelque part, je me dis que peut-être en vous parlant et en vous écoutant surtout. En écoutant les conseils que vous avez peut-être en tête à me donner, ça va me permettre de me lever le matin et de poser le pied au bon endroit et pouvoir me lever en me disant Pascal, t'es pas une si mauvaise personne. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai vraiment l'impression.
Ah, mais il y a un manque d'estime chez vous terrible parce que vous êtes dans une blessure d'humiliation permanente.
C'est ça. Oui. Alors après, vous pouvez penser, et les auditeurs pareil, mais qu'elle le quitte cet homme. Oui, je pourrais. Sauf que cet homme, il m'a fait des promesses. Je l'ai vu à genoux devant moi il y a quelques années, me disant qu'il est tellement gentil que jamais je te ferai de mal. Ceci dit, ça l'a pas empêché de me frapper, ça l'a pas empêché de me jeter dehors, ça l'a pas empêché de plein de choses comme ça, extrêmement désagréables. Et malgré tout, j'ai l'impression d'avancer depuis des années dans une tempête, mais une tempête de vent violent, vous voyez. Et malgré tout, là, depuis quelques semaines, j'avais quand même j'avais quand même le sentiment, d'avoir sorti la tête du vent. Et avec cette histoire de petit chien qui va pas bien, c'est mon petit cœur de beurre, attention, hein, c'est peut-être c'est pas méchant envers ma bête, mais j'ai l'impression que ben du coup je reprends le vent en pleine tête, quoi.
Tout s'écroule. C'est nous, ouais. Vous ne m'avez pas. On va y venir après. Pourquoi vous êtes encore avec cet homme-là? Ce que j'aimerais vous expliquer, c'est simplement déjà faire une sorte de polaroid du moment présent. À l'époque, ouais. À l'époque de l'homme des cavernes, notre cerveau, notre premier cerveau, le reptilien, son souci c'était la survie et la procréation.
Ouais.
Et quand il y avait une situation de danger, il y avait toutes les hormones qui se mettaient en marche dans le corps pour déclencher une réaction adéquate. C'est-à-dire, s'il y a une horde de loups sauvages qui vous couraient après, il fallait avoir très peur pour courir.
D'accord.
On se mettait donc en déséquilibre pendant un court instant intense. Et puis après, quand le danger était passé, on revenait naturellement à un équilibre normal, si vous voulez. Sauf que dans notre société, on a maintenant des couches de cerveau qui sont le cerveau émotionnel et le cerveau intellectuel. Et donc, c'est plus aussi simple parce qu'on accumule. Et ce déséquilibre qui devrait être temporaire, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes dans les embouteillages pendant 2 heures, ça vous agace.
Ouais.
Sauf que, normalement, une fois rentré chez vous, ça devrait être passé, cette colère, ce stress, cet agacement. Sauf que vous avez accumulé une engueulade avec quelqu'un, un problème de santé du chien, une peur de ceci, une peur de travail, etc. etc. Et finalement, ce déséquilibre, il reste en permanence en déséquilibre. Vous ne revenez plus à l'équilibre. Et là, on commence à couler. C'est-à-dire que ce qui aurait dû être juste à chaque fois une vague, ça devient un tsunami.
C'est ça.
Et là, vous êtes en train de reprendre le tsunami dans la figure.
Voilà. En fait, alors, encore une fois, mon appel était vraiment spontané. Évidemment, ça fait un moment que je vous écoute et tout ça, et que je me dis, tiens, des fois, je me suis dit, ah, ça serait bien que j'appelle, machin. Mais là, en plus, j'étais très étonnée que vous preniez le temps de m'écouter, en fait. Mais je pense vraiment que c'était vraiment le bon moment.
Il y a un déclic qui est en train de se faire là.
Ouais, il y a quelque chose, parce que je veux pas couler en fait, parce que je pense que, contrairement à ce que je m'entends dire tous les jours, je pense que effectivement c'est ma petite fierté à moi, je pense que je suis une femme forte, mais je suis une femme forte qui a en face d'elle en permanence pas des gens, mais une personne notamment qui n'arrête pas de me faire croire le contraire, et ça
Pardon, mais quand vous dites une personne, non, ça n'est pas le premier. Le souci, je comprends, et je pense que ça, depuis l'enfance déjà, vous n'avez jamais été valorisée.
Non, ça c'est sûr.
Vous avez probablement...
On ne va pas rentrer dans les détails.
Non, mais j'imagine parfaitement le schéma, et je pense que vous avez été une enfant, une jeune fille, et une jeune femme qui a été humiliée très souvent, on n'a surtout pas dit qu'elle pouvait avoir confiance en elle et qu'elle pouvait avoir l'estime pour elle.
Voilà.
Donc vous n'aviez pas de valeur.
Absolument
la
pas.
Valeur, vous êtes allé la chercher dans le « il faut que je m'occupe des autres » pour qu'on puisse penser que j'existe et que j'ai de la valeur.
À 15 ans, je voulais être auxiliaire de vie.
Ben oui, c'est très très classique ça comme schéma, quand on a cette blessure d'humiliation.
Mais j'adore mon travail, hein, attention.
Bien sûr,
enfin, j'adore.
Bien évidemment.
Là j'existe.
Parce que vous me le retirez de la bouche, parce que là vous existez et là vous pensez avoir la valeur. Alors cette valeur-là, vous l'avez tout le temps, mais vous ne la percevez pas. Votre valeur, elle ne dépend pas des autres. Elle ne dépend pas de ce que vous faites, mais de qui vous êtes. Mais ça, vous n'arrivez pas à le percevoir parce qu'on vous l'a caché, on vous a dit le contraire pendant trop d'années. Et là, vous dites une personne, mais c'est une plus une plus une. C'est comme si ça avait été une chaîne continue de gens qui ont continué le même discours et la même façon de se comporter avec vous. C'est de la, c'est de la maltraitance.
Oui, non mais bien compris depuis longtemps.
Mais alors, pour quelle raison restez-vous avec cet homme?
Parce que déjà, l'homme d'avant avec qui j'ai vécu 20 ans et avec qui j'ai eu 3 enfants et qui m'a abandonnée et qui a préféré se pendre plutôt que d'assumer sa vie de papa, enfin son rôle de papa. Je passe sur les violences conjugales et les coups et les blessures. Là, j'avais rencontré cet homme qui, pendant 2 ans, m'a fait miroiter monts et merveilles. Et en fait, c'est la colère qui me tient. C'est la colère parce que il y a un moment, faut arrêter. Il y a un moment, faut arrêter de mentir. Il y a un moment, faut arrêter. Je pense. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Il y a un moment, faut que les gens arrêtent de me dire.
Et comment ?
Bah oui, non mais c'est pour ça. D'ailleurs, en vous parlant, je tape du pied. Je me dis, mais non, mais c'est pas acceptable.
Servez-vous de cette colère non pas pour qu'elle soit face à vous comme le vent d'une tempête que vous me disiez, mais qu'elle passe derrière vous pour vous pousser en avant.
Mais
malheureusement, vous sert à avancer cette colère.
D'accord, j'entends bien ce que vous dites. Par contre, là où je pêche, c'est que je ne sais pas m'exprimer. Je m'exprime mal.
Ben oui, parce que quand on n'a pas confiance en soi.
Spontané.
Et oui.
Voilà. Et du coup, ça crée des conflits qui si j'avais. Enfin, après, je vais encore dire que c'est de ma faute, mais non, parce que j'ai aussi en face de moi quelqu'un qui connaît mon histoire, qui soi-disant l'a comprise, mais en fait, qui n'est ni plus ni moins que égocentrique et manipulateur. Et
évidemment, il connaît votre histoire. Évidemment, il l'a comprise, puisqu'il s'en sert. Il s'en sert.
Voilà.
Vous étiez la proie idéale.
On est bien d'accord.
Bien sûr, c'est injuste. En même temps, vous conjuguez votre vie pour l'instant au passé, tout le temps. À chaque fois, vous conjuguez votre vie au passé au lieu de la conjuguer au présent. À chaque fois que je vous demande pourquoi vous restez, vous me dites, il y a 2 ans, il m'a promis ci, il a été gentil, il a été mon prince charmant. Il faut vraiment que vous arriviez à comprendre que ce n'est... Même si ça a été le cas, ce que j'ai du mal à croire, je pense que c'était plutôt une vision que vous aviez, une espérance que vous aviez, voire une croyance. Ça n'est plus
peut-être
le cas.
Ouais.
Ça n'est plus le cas. Et la vie, elle ne se vit pas au passé.
Ouais, c'est vrai.
Et là, vous regardez dans le rétro... Vous savez, en cherchant un paysage qui est derrière et qui n'est plus devant. Et j'aime beaucoup cette citation que j'ai donnée à l'antenne il y a quelque temps où je disais « Arrêtez de chercher votre bonheur là où vous l'avez perdu, parce qu'il n'y est plus. »
Ouais. Mais alors pourquoi j'ai ce sentiment d'aimer cette personne malgré tout ?
Parce que vous venez de dire vous-même, vous avez le sentiment de l'aimer. C'est pas de l'aimer. Je crains que ce ne soit pas de l'amour mais de la dépendance.
Ah, c'est malheureux, là, c'est grave. Alors après, j'ai vu des psychiatres, j'ai vu des psychologues, et je suis comme cette... La personne que vous avez, avec qui vous avez parlé juste avant, je suis quelqu'un qui parle très peu. Surtout de mes propres... Ouais, voilà, de mes propres problèmes. Et c'est vrai que j'ai souvent pensé à l'hypnose pour différents, parce que je suis une fumeuse aussi. Enfin, c'était comme ça que c'était parti. Et vous, est-ce que vous pensez que l'hypnose pourrait m'aider à faire le deuil de cette dépendance en fait, parce qu'il y a un moment, il va falloir que je me libère quand même.
Alors non seulement.
J'ai pas le droit d'avancer dans la vie. Je veux pas mourir triste et avoir des regrets.
Ben voilà, une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a comme un petit coup de pied aux fesses qui s'est installé là aujourd'hui.
Mais pas qu'aujourd'hui, ça fait déjà quelques semaines que je me dis merde quoi. Et j'ai des amis, heureusement. Alors, je pense que voilà, et là je peux vraiment leur tirer mon chapeau parce que j'ai des amis. Hommes et femmes, qui ont bien vu ce qui se passait, qui savent ce qui se passe, sans le dire vraiment, mais qui m'ont dit « Mais Pascal, mais pense à toi. » Et en fait, ils me disent « Moi, quoi. » Et voilà. Et je suis dans le « Moi, mais en fait, je n'ai pas tous les outils, je ne sais pas
Alors,
très bien comment faire. En fait.
Est-ce que vous savez ce qu'il faut prendre pour être heureuse ?
Non.
Des décisions ?
Ah oui, c'est ce que je dis toujours. Le plus dur, c'est de prendre la décision et une fois qu'on l'a prise, tout va bien.
C'est pas aussi simple que ça, mais une fois qu'on l'a prise, au moins, on est sur le bon chemin.
D'accord.
Et pour l'instant, vous êtes sur le point d'ouvrir la porte qui vous mène sur le bon chemin. C'est-à-dire, c'est vraiment tout prêt. Et quand vous dites, il faut que je fasse le deuil de cette relation, bien sûr, il y a un lien toxique à couper pour vous détacher de cette dépendance. Mais au-delà de ça, il y a vraiment une petite fille chez vous à aller soigner à l'intérieur. Allez lui dire à quel point elle a de la valeur, cette petite fille.
Arrêtez, vous allez me faire pleurer. mais j'en suis consciente. Hein. Je sais très bien que voilà, je suis blessée depuis toujours. Mais...
Et ben voilà, il est temps d'aller cicatriser ça. Comme vous dites, vous avez le droit de vivre, d'être heureuse.
Bah oui, bien sûr, oui, je pense, oui. Tout le monde a le droit, et moi aussi, en fait.
Et d'aussi loin que date la blessure, il n'est jamais trop tard pour aller la mettre un baume cicatrisant dessus.
D'accord.
Et elle est vraiment expliquée avec parce que vous êtes aussi une résiliente. Vous avez surmonté tout ça.
Oui, enfin, je me bats. Après, j'ai pas l'impression de me. Lorsque je vais aider les gens qui ont besoin pour rester, parce que je suis une fervente du domicile, hein, bien sûr, vous en doutez, j'ai aucun mal là-dessus. J'ai pas de mal.
Ah, j'en ai aucun doute.
J'ai tellement pas de mal que du coup, là, ça c'est encore une petite cerise de plus. J'ai dû me faire remplacer là, quelques jours parce que j'ai des plages horaires qui sont très très longues, qui sont de 12h, 12h30. J'ai dû me faire remplacer la semaine à venir, là, à partir de ce week-end, je me suis fait remplacer parce que je suis épuisée.
Ben oui, forcément.
Mais j'ai eu. Enfin, j'ai envie de dire, j'ai eu la présence d'esprit de prévoir le coup et de me faire remplacer. Mais l'histoire du petit chien, on y revient, ce petit chien adorable.
C'est un déclic.
Alors, cœur de beurre.
Juste parce qu'on a des gens qui s'inquiètent aussi pour lui et qui lui souhaitent le meilleur. Qu'est-ce que dit le vétérinaire ? Est-ce que c'est mortel ou est-ce qu'il peut vivre avec des médicaments ?
Non. Alors, en fait, ma petite Oli, elle avait une suspicion d'hernie discale. Alors, effectivement, elle a une hernie discale dans le bas du dos, qui est, elle n'a pas besoin d'être opérée.
Bon.
Avec un peu de surveillance et puis l'éviter de. Ça, c'est OK. Par contre, et c'est, je crois que c'est ce qui m'a scié, c'est qu'on a appris en faisant le scanner. Que j'ai demandé un scanner, une prise de sang. Prise de sang, ok.
Oui, vous m'avez dit, elle a un seul rein.
Elle a un seul rein, et ça, j'étais pas prête à l'entendre. Bien entendu.
Ma question est la suivante. Nous, on peut vivre avec un seul rein. Est-ce que c'est possible pour un chien ?
Oui, tout à fait.
Bon.
Sauf que le vétérinaire qui m'a appelé ce soir, enfin en fin de journée, là, me dit qu'il ne faut absolument pas qu'elle ait d'infection urinaire, mais. Comment faire ? Enfin, moi, ma question, c'est mais comment je peux faire pour que mon petit bout, il chope pas d'infection urinaire ? Moi, ça fait 3 ans qu'elle est avec nous. Effectivement, elle n'a jamais eu d'infection urinaire. Est-ce qu'en sachant ça, il faut alimentation saine ?
Le vétérinaire va être là pour vous conseiller. C'est sûrement pas la première fois qu'il fait face à ça. Donc, ne commencez pas non plus à anticiper un avenir dramatique.
Oui, non, on est bien d'accord, de toute façon, moi, mon cher, je l'ai avec moi, je la vois, je vois qu'elle va bien, il n'y a pas de souci. Mais
je pense que là, vous avez raison, c'est qu'elle a été un déclic, et c'est ça qui est important.
Oui, voilà, ça a été un déclic.
Cette petite goutte a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ça suffit, et vous voyez, il y a un message de Sarah qui vous dit... Pascal, décidez que c'est terminé. Vous n'avez pas à accepter de vous laisser gronder comme une enfant. Prenez le pouvoir, faites-vous respecter. C'est à vous de diriger votre vie.
Merci Sarah, c'est gentil.
Oui.
Ouais, écoutez, je vais essayer, mais vous savez, je fais 1m47, 60 kilos en plus. Effectivement, moi aussi, j'ai pris du poids. Je pense que ça n'a pas aidé par rapport à mon couple. En plus, il m'a acheté de son lit. Enfin bref, même si je suis toujours dans la maison... c'est un peu compliqué, enfin pas compliqué, mais c'est une relation. On est des colocataires en fait, pour faire court.
Un colocataire ne pourrait pas vous faire de mal parce qu'il n'y aurait pas de dépendance. Et là, il y en a une.
Ouais. Bon.
Et pour en revenir
à des colocataires.
Pour en revenir à l'hypnose, évidemment, je pense qu'il faut travailler sur la cause avant de travailler sur la conséquence. Donc la conséquence, c'est cette relation désastreuse avec cet homme et tous les autres. Mais la cause, c'est vraiment cette petite fille blessée à l'intérieur de vous. Et pour ça, l'hypnose est vraiment un outil fabuleux. Et relativement rapide dans le nombre de séances pour travailler sur ça, pour aller réparer cette partie de vous qui croit tellement pas en elle, qui a tellement peur de tout, et qui est en colère en même temps.
Vrai, ouais.
Et c'est bien parce que cette colère-là, justement, ça va être enfin une colère qui va être un moteur et pas un frein.
Oui, parce qu'en fait, j'ai pas de la merde dans les yeux non plus. Je sais de quoi je suis capable. Je me connais. Je sais quel investissement je donne au quotidien. Et je pense que la façon dont je suis traitée n'est pas juste.
Très bien.
L'injustice, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Et à un moment, il va falloir que.
Parce que vous l'avez subi. Vous l'avez trop subi dans votre vie, l'injustice.
Ouais, c'est ça.
Mais vous savez, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est ce que vous allez soigner chez les autres tous les jours. C'est chez vous qu'il faut le soigner maintenant.
D'accord. Donc, si je fais court, le conseil que vous me donnez, c'est d'aller voir un hypnotiseur.
Hypnothérapeute.
Pardon ?
Hypnothérapeute. C'est une thérapie, c'est pas du spectacle. Quand on dit hypnotiseur, c'est du spectacle.
Ah pardon, excusez-moi.
L'hypnothérapeute, c'est quelqu'un qui va vous proposer une thérapie, c'est-à-dire un suivi quand même.
D'accord, ok.
Pas pendant des années, mais pendant quand même quelques semaines.
Oui, mais quelques semaines, ça me va bien. Je suis pressée, mais pas...
Pour vous aider vraiment, vous aider vraiment à récupérer l'essentiel pour moi, c'est l'estime de vous-même.
Ouais. Oui, oui, on est bien d'accord. Mais je pensais avoir justement réussi à surmonter tout ça. Et vous voyez, cette petite chose qui, a priori, paraît banale, parce que bien entendu, je vais m'occuper de mon chien, je vais faire tout ce que je peux, et financièrement, j'assumerai, il n'y a pas de souci, parce qu'il peut y avoir ça aussi, alors que là, le problème ne se pose pas. Mais malgré tout, ça m'a abattue, quoi. Ça m'a battue. Mais je suis bien contente de vous avoir eu au téléphone. Vos conseils vont permettre d'avancer, je pense.
Et je suis persuadée que le vraiment prenez ça comme un coup de chance, cette goutte d'eau. Entre ce que vous dites, je pensais avoir surmonté tout ça. Moi, je pense que vous étiez assise sur tout ça. En disant, j'ai fermé le couvercle et ça va aller.
Oui, je pense que l'image est parfaite. L'image est parfaite.
Sauf que tout ce qui est en dessous, c'est en train de pourrir. Et qu'il est temps d'ouvrir le couvercle et laisser sortir tout ça. Vraiment.
D'accord, ouais. Et on n'a pas parlé de tout, vous en doutez.
Oh bah, j'ai bien compris dans les grandes lignes et j'imagine le parcours. Mais en même temps, je sens chez vous cette force, ça s'entend dans votre voix. Vous avez une belle énergie et c'est cette énergie-là qui va vous pousser en avant. Maintenant, j'en suis absolument persuadée, vraiment.
D'accord.
Et déjà, le simple fait que vous ayez appelé ce soir, c'est que vous avez déjà ouvert la porte.
C'est pas faux. Elle est entrouverte.
Vous n'avez pas encore trouvé le chemin, mais vous allez le trouver, à mon avis, très rapidement. Mais vous avez déjà pris la première bonne décision, c'est-à-dire, voilà, stop. Maintenant, c'est bon. Ça suffit.
Maintenant, ça suffit.
Il y a un moment où c'est le moment, un moment où il est temps. Il y a quelque chose en vous qui est en train de vous dire, maintenant, c'est vraiment le moment, quoi. C'est bon, ça va. La vie passe vite, j'ai le droit d'être heureuse et j'ai envie de vivre autre chose.
C'est ça. Ah oui, j'ai envie de vivre autre chose, ça c'est évident.
Et surtout, vous le méritez. Il n'y a aucune raison. C'est pas parce qu'on vous a maltraité que vous n'êtes pas quelqu'un d'aimable dans le sens à aimer.
Aimable, oui. Ouais, si, pourtant, mes amis m'apprécient énormément.
Mais j'en doute pas,
mais pas mes, étrangement, ni pas mes compagnons ou tous les hommes avec. Enfin, il y en a
parce
pas
que, parce qu'inconsciemment, vous avez choisi les mauvais. Parce que votre blessure, n'était pas soignée. Parce que c'est toujours comme ça dans la vie. Quand on n'a pas résolu un problème, la vie nous remet face au même problème, sous différentes formes, jusqu'à ce qu'on comprenne.
D'accord.
Et comme on est souvent un peu têtu, ça peut durer longtemps.
Je suis un peu têtu, oui.
Il y a Marc qui envoie un petit conseil. Il dit, votre petit chien doit boire beaucoup d'eau.
On lui met régulièrement de l'eau fraîche, mais c'est pas nouveau, on le faisait déjà avant. Et bien entendu, on va continuer. Merci Marc, hein, c'est gentil de ta part. J'apprécie le geste. Mais on fait attention à ça, oui. Oui. Mais on le faisait déjà avant, je sais pas pourquoi. On savait qu'elle aimait bien.
Instinctivement. Alors cette petite Oli, vous allez lui faire des gros câlins de ma part. Je vais lui envoyer plein d'énergie positive pour qu'elle tienne bon.
Non. Ouais, mais elle va bien, hein. Elle va bien.
Oui, puis
c'est moi qui vais pas bien, en fait.
Oui, mais elle a été votre déclencheur et vous pouvez lui dire merci pour ça.
Eh ben, je lui ferai un gros poutou demain matin parce que là, c'est un chien, hein, et les chiens, ils dorment pas dans les lits et blablabla et blablabla. Elle a son petit coin. Elle est dans son petit coin avec son copain Hercule, qui est aussi un bulldog, qui lui va très très bien du haut de ses 9 ans. Et je leur ferai un gros poutou à tous les deux demain matin. Et merci pour tous vos conseils, en tout cas. C'est très gentil. Vous m'avez reboosté, là.
Ben, j'en suis ravie, Pascal. Je vous embrasse très fort et vraiment, prenez-le ce nouveau chemin devant vous parce qu'il va être beau, vous verrez.
Je vous rappelle au printemps.
J'en serai ravie, vraiment.
À bientôt.
Je vous embrasse, Pascal. Bonne nuit.
Au revoir, merci.
Et oui, il est presque 1h du matin. Notre libre antenne en direct se termine. Merci de nous avoir été fidèles ce soir encore. Merci pour vos témoignages. Merci pour votre présence. On se retrouve sur Europe 1 demain soir à partir de 23h pour une nouvelle libre antenne. Et je vous quitte avec la phrase du jour. Écoutez les autres, mais ne perdez jamais votre propre voix. Et oui. Passez une bonne nuit et à demain. Il est 1h du matin sur Europe 1, c'est donc le début des programmes de la nuit.